aujourd'hui, nous allons voir comment s'assurer que Dieu est avec nous et marche avec nous. Amen. Comment s'assurer que Dieu est avec nous et marche avec nous? Nous avons commencé une série d'enseignements depuis un bon moment où nous avons décidé de nous mettre à la recherche de Dieu et de comprendre qui est Dieu, de le connaître davantage, comment est-ce qu'il fonctionne. On a vu qu'il était impossible de pouvoir connaître Dieu et de pouvoir marcher avec Dieu sans connaître ce qu'on appelle l'obéissance, sans être obéissant à la parole de Dieu, sans l'humilité. Grandir dans l'humilité, généralement, c'est grandir dans la connaissance de Dieu. Sans la marche par l'esprit, parce qu'il est impossible de pouvoir communiquer avec Dieu, de pouvoir marcher avec Dieu, si on n'est pas rempli de l'esprit de Dieu. Amen. Et si on n'ouvre pas la porte à l'esprit de Dieu. Nous avons vu également que la foi était importante. Parce que pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Amen. C'est la foi qui fait que Dieu apprécie une personne ou pas. Donc le degré d'appréciation de Dieu à notre égard ne dépend pas de la couleur de notre peau, de la couleur de nos yeux, de notre taille, de notre poids, mais de notre niveau de foi. C'est pour ça que la Bible dit « Il vous sera fait selon votre foi ». Amen. Donc c'est important. Ensuite, nous avons vu que pour marcher avec Dieu, c'est vrai qu'il faut la foi, mais il faut aussi la patience. Il faut être capable d'attendre Dieu, d'attendre que Dieu fasse les bonnes choses en leur temps. Amen. Ensuite, nous avons parlé également de l'amour. On a vu que l'amour de Dieu n'est pas un amour humain, c'est pas un amour de circonstance, c'est pas un amour de compagnie, mais c'est un amour profond. Et Dieu nous demande d'aimer de cette sorte-là. Amen. Tous ces enseignements ont été donnés depuis la fin de l'année dernière. Ça fait l'objet de DVD. On a parlé également de la bénédiction, que si on veut marcher avec Dieu, il faut marcher dans la bénédiction, parce que Dieu ne marche pas avec les gens qui sont maudits. Amen. La première des choses que Dieu fait quand il rencontre quelqu'un qui est dans la malédiction, il transforme sa malédiction en bénédiction. Amen. Et après, on a vu comment activer les lois de la bénédiction. Tout ça, ça fait l'objet de différents DVD. Ensuite, nous avons parlé du sacrifice. Et on a vu que le sacrifice de soi et le sacrifice de ses biens était la seule manière pour nous d'être en contact avec la destinée à laquelle Dieu nous appelait. Et tous les gens dont le nom est écrit dans la Bible sont des personnes qui ont dû faire des sacrifices importants. Ils avaient des objectifs, ils avaient des rêves, ils avaient des choses qu'ils voulaient faire. Mais lorsqu'ils ont rencontré le Seigneur, ils se sont engagés pleinement. Amen. Donc si on veut devenir de grands hommes, de grandes femmes, et c'est ce que Dieu veut qu'on soit, il veut qu'on soit la lumière du monde. Amen. Il veut qu'on soit des leaders. Quand on parle de leadership, c'est ça. Vous êtes la lumière du monde. Un leader éclaire les gens. Amen. Donc quand tu as des envies de grandir, tu as des envies d'être la tête et non la queue, quand tu as des envies d'être en haut et non en bas, tu as surtout simplement envie de faire ce que Dieu veut que tu fasses et d'être là où Dieu veut que tu sois. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre porte qui est indispensable. Dis à ton voisin, indispensable. Pour la connaissance de Dieu. Amen. Et pour marcher avec Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, à partir du verset 14. Je vais lire d'abord le verset 1. Et ensuite, on va lire le verset 14. La Bible dit, dans Hébreux 12, verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les témoins, c'est ceux qui ont déjà accompli des choses avant nous. C'est eux nos témoins. Ils ont accompli des choses. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où on dit, c'est vrai, ils ont été forts, ils ont fait des grandes choses, mais est-ce que nous, on pourra? Oui, on peut. Mais si on veut pouvoir avoir les résultats qu'ils ont eus, il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on rejette les fardeaux. Dis à ton voisin, rejette les fardeaux. Et le péché. Tu vois? Dans la vie, si tu veux aller loin, il faut ménager ta monture. Amen. Si tu veux aller loin, tu n'as pas besoin, par exemple, tu as un cheval ou bien même une voiture ou bien tu as un soldat. Quand on envoie les soldats au combat, tout ce qu'ils portent et tout ce qu'ils prennent sur eux pour aller au combat sont des choses qui leur sont utiles et nécessaires. Il n'y a rien qui est de superflu. Tout superflu est enlevé. Pourquoi? Parce que ça va t'empêcher d'atteindre ton objectif. Tu n'as pas besoin de porter un poids supérieur à celui qui est nécessaire. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que rejetons tout fardeau. Une relation peut être un fardeau. Une personne peut être un fardeau. Amen. Rejetons le fardeau. Et ensuite, il dit, rejetons le péché. Et le péché qui nous enveloppe. Pourquoi? Le péché vient faire quoi? Il nous enveloppe. Quand vous mettez quelque chose dans une enveloppe, est-ce que vous pouvez savoir ce qu'il y a maintenant dans l'enveloppe? C'est l'enveloppe que vous voyez, mais vous ne voyez pas l'intérieur. C'est peut-être si vous mettez la chose, vous pouvez savoir parce que c'est vous qui l'avez placée. Mais si quelqu'un met quelque chose dans une enveloppe, même si vous touchez, si imaginons que c'est une enveloppe à bulles, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas la chose, mais vous voyez l'enveloppe. Donc quand il dit l'enveloppe qui nous, quand il dit le péché qui nous enveloppe, ça veut dire que le péché a cette capacité de nous envelopper. Je l'ai expliqué. Ceux qui ont fait les retraites spirituelles et tout, vous devez comprendre que le péché, pourquoi on dit que ça agit comme une enveloppe? Parce que le péché parle, le péché crie. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que non, les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre, ni sa main trop courte pour pouvoir toucher. Mais ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous entendre. Donc qu'est-ce qui se passe? Le péché l'empêche de vous entendre. Quand le péché empêche de vous entendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous parlez à Dieu, quand vous priez, c'est le péché dans lequel vous êtes qui parle plus fort que vous. Donc quand vous êtes en train de prier, par exemple, vous avez volé, par exemple, ou bien vous avez l'habitude de voler, au moment où vous dites « Seigneur », lui n'entend pas « Seigneur ». Vous savez ce qu'il entend? Il entend « voleur ». C'est pour ça qu'on dit le péché qui vous enveloppe. Le péché vous enveloppe. Le péché vous étouffe, ça vous empêche véritablement d'avoir une identité devant le Seigneur. C'est pour ça que Dieu a envoyé une solution contre le péché. Le péché nous enveloppe et le péché l'empêche de nous entendre. Donc tu es adultère. Au moment où tu cries Seigneur, au ciel on n'entend pas Seigneur. Il entend adultère. Adultère, 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 menteur, 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 voleur, voleur. Voilà le genre de prière qu'on fait monter au ciel. Ça l'empêche de nous entendre. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Dieu a ouvert à chacun d'entre nous une carrière. Et si nous nous débarrassons du péché, si nous nous débarrassons des fardeaux, nous allons courir, nous devons maintenant courir dans cette carrière-là. Vous allez vous rendre compte que tout ce dont vous avez envie et tout ce dont vous avez besoin se trouve dans cette carrière-là. Vous allez connaître de grandes victoires. Vous allez connaître de grandes percées. Vous allez connaître des choses extraordinaires. Mais tant que le fardeau vous retienne, tant que le péché vous enveloppe, qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Vous stagnez. Et le problème, c'est que si cela demeure jusqu'à la fin des temps, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume de Dieu. Dis à ton voisin, on va ouvrir la porte de la sanctification. Connaître Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'ouvres pas la porte de la sanctification. Hébreux 12 toujours, verset 14 nous dit. Hébreux 12, 14 nous dit. Recherchez la paix avec tous. Et là, sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si quelqu'un n'a pas la sanctification, il ne verra pas le Seigneur. La seule manière pour nous de pouvoir voir Dieu un jour, c'est de marcher dans la sanctification. Dis à ton voisin, marche dans la sanctification. On va prendre un texte aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi dans la vie de beaucoup de personnes, il y a des choses qui sont bloquées. Pourquoi ils n'avancent pas? Pourquoi il y a des percées qui ne s'opèrent pas? Pourquoi est-ce que des fois une église aussi peut être ralentie dans son évolution? Et beaucoup pensent que c'est la faute du pasteur, c'est la faute du pasteur, c'est la faute du pasteur. Des fois, c'est la faute des membres, c'est la faute de certains membres, c'est la faute de certains responsables. On va comprendre ça aujourd'hui, on va le voir de manière très claire. Tu prends ta Bible dans Josué chapitre 7. On va étudier le texte de Josué. Josué 7. Josué 7 vient après Josué 6. Amen. Josué 7 vient après Josué 6. Quand on le dit comme ça, sous forme de nombre, on dit, ah mais pasteur, c'est évident. Sauf que ce que vous allez comprendre, dernièrement, le pasteur Alessandre Amazo était là, il a parlé sur la bataille de Jéricho. Dans Josué 6, on parle de Jéricho. Dans Josué 7, on parle de Haï. Haï, c'est un petit village. Josué 7, 6, on parle de Jéricho. On parle de la ville la plus fortifiée qui existait. On parle d'un endroit qui était terrible, où les habitants étaient équipés, armés, où la ville était fortifiée par des remparts et par une muraille qui était réputée être imprenable. Josué 6 nous parle d'un combat qui était déjà perdu à l'avance, avant d'être mené, et que tout le monde, personne ne pouvait prédire la victoire d'Israël contre Jéricho. Personne ne pouvait dire que non, Israël allait pouvoir prendre Jéricho. Et par une stratégie que Dieu a mise en place, qui a montré comment un peuple qui est ordonné, un peuple qui est discipliné, un peuple qui se tait quand on lui dit de se taire et qui crie quand on lui dit de crier, est capable de pouvoir faire tomber les plus grosses murailles et de prendre la ville la plus fortifiée qui existe. Amen. Jéricho, c'était la manifestation dans tous ses sens de la puissance de Dieu. La prise de Jéricho, c'est le genre de choses qu'on veut régulièrement avoir. On nous dit non, tu ne peux pas faire ceci, mais tu le fais quand même. Non, tu ne peux pas accomplir ça, mais tu l'accomplis. Personne n'a fait ça avant toi, mais toi, tu es le premier à le faire. Ça, c'est des batailles de Jéricho. Mais autant il y a des batailles de Jéricho, autant il y a d'autres choses qui peuvent arriver. Et c'est ce que nous voyons dans Josué 7. Josué 7, on va lire pratiquement tout le chapitre. Regarde ce que ça dit. La Bible dit, les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Regardez, verset 2, la Bible dit, Josué, bon, le verset 1, c'est un peu comme le titre, parce que c'est le développement se voit dans le verset 2, à partir du verset 2. Verset 2, la Bible dit, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Donc Josué finit de prendre Jéricho. Il est assis à Jéricho. Ils ont eu la victoire sur Jéricho. Les murailles sont tombées. Jéricho est tombé. La ville a été prise. On est fort, on est puissant, on est grand, on est capable de faire de grandes choses. Maintenant, il dit, je vais envoyer des éclaireurs vers Haï, qui est la prochaine étape. Parce que toutes ces victoires-là devaient être gagné, on devait gagner chaque combat sur le chemin de Canaan. Josué est celui qui a amené Israël à entrer à Canaan. Et il y avait des combats. Un des combats, c'était Jéricho. Maintenant, il y avait un autre combat, Haï. Donc, la Bible dit, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Haven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Amen. Il revint auprès de Josué et lui dit, eux ils reviennent, mais ils ont été ragaillardis par la victoire de Jéricho. Donc ils disent à Josué, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Donc ils sont allés, ils ont dit, quoi, c'est quoi ce petit village-là? C'est un petit coin. Nous, on vient de gagner à Jéricho. Donc c'est pas la peine d'envoyer tout le peuple à Haï. 2 à 3 000 personnes, c'est largement suffisant. Ok? Il dit donc, ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont petits en nombre. Donc, Haï était petit en nombre. Il ne dépassait même pas les 1 000 personnes. Ils étaient un petit village, avec quelques personnes. Donc eux, ils ont déjà eu la victoire à Jéricho. Ils sont haïs, ça ne sert à rien de fatiguer le peuple. Verset 4, 3000 hommes environ se mirent en marche. Donc ils appellent 3000 personnes. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens qui ont eu la victoire à Jéricho, ce sont les mêmes maintenant qui se dirigent vers Haï, un petit village. Et lorsqu'ils arrivent à Haï, mais les gens de Haï les ont fuités, les ont frappés correctement. Et les 3000 personnes qui étaient allées attaquer Haï, ils ont commencé à fuir, ils ont couru et ils sont revenus voir Josué à Jéricho. La Bible dit, les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à chez Barret et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdu courage. Donc quand ils ont vu leurs 3000 gens revenir, on a tué 36 parmi eux. On les a poursuivis, on les a frappés. Certains ont oublié leurs armes. D'autres ont laissé leurs chaussures là-bas. Ils sont arrivés vraiment comme s'ils venaient d'affronter une grande armée. Ils arrivent et le peuple les voit. Les gens sont consternés et découragés. Ils disent, mais c'est pas croyable. Comment un petit village comme Haï, nous on peut pas battre un petit village comme Haï. On vient de battre Jéricho, mais qu'est-ce qui se passe? Josué, la Bible dit, Josué déchira ses vêtements. Il déchire ses vêtements et il se prosterne jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière, tellement ils avaient honte. Pour eux, c'était terrible. C'était une débâcle qui était injustifiée, injustifiable. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. La Bible dit, Josué dit, au verset 7, Josué dit, ah, Seigneur, Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je auprès d'Israël, après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils disent, mais la défaite qu'on a eue à Haï, là, les Cananéens vont apprendre ça. Les Amoréens vont l'apprendre. Tous les habitants vont l'apprendre. Et ils nous envelopperont. Et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Il dit, mais pourquoi tu restes couché? Dieu lui explique maintenant pourquoi est-ce que Haï a perdu cette bataille. Regardez au verset 11. Pourquoi Israël plutôt a perdu la bataille? C'est bien, moi ça prouve que vous suivez. Verset 11, c'est écrit au verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Israël a péché. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Et ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées et ils ont caché parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi? C'est-à-dire que parce qu'ils ont péché, ils ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ok? Car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous, je ne serai plus avec vous. Donc si vous avez gagné à Jéricho, c'est parce que j'étais avec vous. Si vous avez perdu à Haï, c'est parce que je n'étais pas avec vous. Et si je ne suis pas avec vous, si le péché est au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez? C'est clair. Verset 14. Vous vous approchez le matin selon vos tribus. Non, il dit plutôt au verset 13. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin, selon vos tribus, et la tribu ce que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Donc c'est là que vous voyez que l'organisation si importante dans l'armée de Dieu, dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient classifiés en tribus. Amen. En famille, en maison, et puis maintenant en personne. Donc chaque personne pouvait être retracée par rapport au groupe ou au département ou à la structure à laquelle il appartenait. De telle sorte que quand il fallait maintenant chercher quelqu'un, on pouvait le retrouver facilement parce que les choses étaient ordonnées et classifiées. Amen. La Bible dit qu'il fit approcher donc les familles de Juda. Et la famille de Zérak fut désignée. Okay? Donc il apporte d'abord, il fait approcher les tribus. Donc Josué se leva de bon matin, verset 16. Il fait approcher Israël selon ses tribus. Il y avait 12 tribus en Israël. La tribu de Juda fut désignée. On dit le pécheur là, il se trouve dans Juda. On fait approcher Juda. Et la famille de Zérak est désignée. Le pécheur, elle se trouve à Zérak. On fait approcher la famille de Zérak par maison. Et Zabdi fut désigné. On dit c'est Zabdi. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Ça veut dire que quand tu es en Israël, tu n'es pas un électron libre. Tu appartiens à un groupe, à un département. Voilà, c'est toujours classifié. On se promène pas comme ça. On est quelque part. Et maintenant, dans chaque endroit où tu es, il y a un responsable. Et le responsable, il a des responsabilités vis-à-vis de toi. Les affaires de c'est ma vie privée là, Dieu n'est pas dedans. Quand tu es dans l'église là, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Dieu. Donc le responsable, il a le droit de regarder et il a le droit de te poser des questions par rapport à certains agissements et certaines pratiques. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit à Israël, à Josué qu'il y a le péché, il n'a pas dit que Akan a péché. Il a dit Israël a péché. Il a dit Israël a péché. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois qu'un membre de l'église EVV pêche, ce n'est pas lui qui pêche seulement, mais c'est l'église qui a péché. C'est l'église qui a péché. Et donc, on ne peut pas être dans cet état et puis avoir des victoires. N'importe quel petit ennemi va nous créer des problèmes. N'importe quelle chose va nous créer des problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il faut sortir le pécheur. Plus même, il faut sortir le péché. Parce que le pécheur, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Mais Dieu veut que le pécheur se repente et qu'il vive. Mais c'est le péché que Dieu n'aime pas. Et Dieu veut que le péché sorte du milieu de nous. Dis péché sort. Josué dit à Akan, donc Akan est désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi, donc, ce que tu as fait, ne me le cache point. Donc, des fois, tu dois pouvoir demander à un fidèle, qu'est-ce que tu fais chez toi, la nuit? Qu'est-ce que tu fais avec tel frère ou telle sœur? Oui, tu dois poser. Et si la personne ment, vous savez, il y a des gens qui disent, oui, Dieu ne frappe pas, Dieu ne frappe pas, Dieu n'a pas frappé, pourquoi Dieu n'a pas... Mais Dieu ne frappe pas quand tu ne demandes pas. Mais si le responsable pose la question, si la personne ment, c'est un problème entre lui et Dieu maintenant. Dieu va frapper. Donc, maintenant, nous, on se dit, non, on n'a pas le droit de demander. Tu as le droit de demander. Tu as le droit de demander. Tu peux demander à un fidèle, au fait, s'il donne ta dîme même. Tu peux lui demander s'il donne sa dîme. Parce que si lui ne donne pas sa dîme, ça nous bloque toute l'église financièrement. Tu as le droit de lui demander, mais toi, tu fais quoi avec cette sœur-là? Tu n'es pas marié? Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel. Il va le brûler bientôt, mais il dit, donne gloire à l'Éternel. Il dit, donne gloire à l'Éternel. Il dit, dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Verset 20. La Bible dit, Akan répondit à Josué, et il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéa, 200 sicles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 sicles. Et je les ai convoités. Je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Donc il a pris, il a foulé des trucs. Il allait faire un trou dans sa tente et puis il a caché ça là-bas. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Acan. Et l'argent était dessous. Donc on déterre et puis on voit que l'argent est là-bas. Il les prit du milieu de la tente et les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Donc ils ont ramené les choses qu'il avait volées. Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérakh, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Arcor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Donc vous voyez, l'action d'Acan a troublé Israël. Les actes d'Acan ont troublé Israël. Et Josué dit, « Mais pourquoi nous as-tu troublés ?» Vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il prend les fils d'Acan et les filles d'Acan? Il prend toute sa descendance. Pourquoi? Parce que, oh my God, chaque acte que vous posez, quand c'est en train de malédiction, ça vous frappe vous et ça frappe également votre progéniture, vos descendants. Quand vous recevez une bénédiction, ça vous affecte vous et ça affecte également votre descendance. La Bible dit, je punis le péché des pères jusqu'à la quatrième, troisième génération. C'est dans Exode chapitre 20, verset 4. Et je bénis ceux qui me bénissent jusqu'à la millième génération. Quand encore on parle de la dîme, la Bible dit que Lévi, Dieu dit Lévi a donné la dîme. Comment? Lorsqu'il était dans les seins d'Abraham. Ça veut dire que la dîme, lorsque quelqu'un libère la dîme, il est en train de bénir les générations qui sortent de lui. Il n'ouvre pas la porte pour la bénédiction pour lui seul. Mais il ouvre la porte pour la bénédiction de lui et de toutes les générations qui viendront après lui. C'est la meilleure manière de bénir ses enfants, c'est d'être fidèle dans la dîme et dans les offrandes. Parce que tu n'auras pas à pleurer un jour pour chercher un endroit pour désintoxiquer ton fils ou ta fille. Tu n'auras pas à chercher un jour un centre de discipline pour pouvoir les discipliner. Pourquoi? Parce que tu auras investi dans le royaume de Dieu. Et Dieu, lui, il va s'investir dans ta famille. C'est pour ça que la Bible dit, j'ai vu le lion, les petits du lion et du lionceau, le lionceau éprouver la disette et étant dans les besoins. Mais je n'ai jamais vu le fils, le juste ou le fils d'un juste mendier son père. Donc Dieu a fait dévouer tout ce qui appartenait à Acan par interdit. Lui, ses enfants, ses bœufs, ses ânes. Qu'est-ce que les ânes ont à voir? Ses brebis. Il y a des gens qui voient ça et vont dire, Dieu est injuste, hein? Dieu est méchant. Mais le péché, c'est un cancer, c'est une gangrène. Quand Dieu deal avec le péché, c'est tout, tous, même les habits qui l'ont touché. C'est pour ça qu'il faut faire attention. La Bible dit, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. On les a lapidés d'abord. Après, on les a brûlés. Et puis, on les a lapidés encore. Et on éleva sur Acan un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Ils ont fait comme une montagne de pierres sur lui. Jusqu'à présent, la montagne là, est là. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Acor. Si vous lisez plus loin, vous allez voir que Josué est reparti maintenant en guerre contre Haï. Amen. Josué 8, verset 1. L'Éternel dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Amen. Et ils sont dit, tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Donc Dieu maintenant va dire, retourne, tu vas voir, tu vas avoir la victoire sur Haï. Donc, le péché a un impact sur les victoires ou les défaites que nous expérimentons dans le monde, que nous expérimentons contre nos ennemis. Pourquoi veux-tu que Dieu soit avec toi contre ton ennemi alors que toi, tu lui désobéis et tu vis en dehors de sa volonté? Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Parce que je connais déjà les théologiens, ils vont commencer à dire, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Regardez dans le Nouveau Testament. Comme si ce qui était dans l'Ancien Testament n'était pas la Bible. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, ça nous montre le caractère de Dieu. Ça nous montre la manière dont Dieu est. La Bible dit c'est l'homme des choses à venir. Mais la Bible dit aussi que Dieu ne change pas. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ceux qui n'aimaient pas avant, ils continuent de ne pas l'aimer. Il n'a pas changé. 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 9. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Ok? Donc Paul dit de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Donc un impudique, c'est chapitre 1, verset 6. Parce que de la même manière que ça affaiblit l'église, mais ça t'affaiblit toi-même également. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1. Ah non. Chapitre 6 plutôt. 1 Corinthiens 6. On lit à partir du verset, on va lire à partir du verset 9. Faisons en même temps la liste de tous ces trucs-là. Et puis, je vais vous montrer quelque chose. On va faire une démonstration et après, on va prier. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, ne savez-vous pas, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Dis efféminés. Ah, c'est grave, on n'a pas dit homosexuel, on dit efféminé. Ça dit le frère marche comme une fille. Enfer. Toi, tu ne rentres pas. C'est dans le royaume de Dieu. C'est pas dans le royaume de Dieu là-bas. On dit, on s'en va la louange, on s'en va la louange. Quelle louange? On veut pas ça ici, mon frère. On veut pas les gens pour venir perturber les gens. C'est dans la Bible. Même les efféminés. Moi, une fois, j'ai fait lire ça à un frère. Mais c'est comme s'il avait jamais lu le verset. Il aimait beaucoup faire les trucs. Il dit, moi, j'ai grandi avec les filles, tu comprends, ma chère. Il dit, ah bon, tu as grandi avec les filles. Il dit, tiens, voilà, faut lire ça. Il dit, il commence à lire, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Il dit, ah bon? c'est plus, ah bon, hein? Ah bon? Je dis, esprit de féminé, là, c'est sorti de lui en même temps, mon frère. L'esprit de féminé, là, est sorti. Ni les infâmes. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Regardez verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. C'est ce qu'on était. Nous tous, on l'a été. Mais si aujourd'hui on peut dire qu'on est sauvé, c'est qu'on ne l'est plus. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, je peux tout faire. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Parce que ces choses-là nous asservissent. Ça nous rend esclaves. Ça fait de nous des esclaves, ça nous asservit. Ok? Verset 18. Il dit maintenant, en parlant de l'impudicité, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi, c'est le péché sexuel. Mais les menteurs, là, on leur fait quoi? Les voleurs, on leur fait quoi? Les tueurs, on leur fait quoi? Mais regarde ce qu'il dit par rapport à l'impudicité. Il dit, fuyez, plus particulièrement, l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. C'est hors de lui. Moi, je n'aime même pas l'expression corps parce que j'ai pris ma version. C'est communion. La Sainte Cène là, le Seigneur a pris le pain, il l'a coupé en plusieurs morceaux. Même chaque morceau qui est distribué, ça vient du même pain. Pour dire que nous sommes un. Nous sommes un. Ce que je fais t'influence. Ce que tu fais m'influence. Ce que nous faisons nous influence. Si nous nous préservons et que nous marchons véritablement dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, on va commencer à voir la bénédiction descendre. Et quand la bénédiction descend dans une église, ça ne touche pas seulement une personne, ça touche tout le monde. On fonctionne dans une grâce, ça vient, ça arrose tout le monde. Et quand il y en a qui estiment que eux, alors qu'ils sont rattachés, mais ils vivent comme s'ils ne sont pas attachés, comme s'ils n'ont aucun compte à rendre. Tu as des comptes à rendre. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu as des comptes à rendre. Parce que tu tires une grâce, tu tires une bénédiction, tu tires quelque chose. Spirituellement parlant, on est tous reliés. Et quand la bénédiction descend, ça arrose tout le monde, ça alimente tout le monde. Donc quand toi, tu reçois aussi la bénédiction, que tu ne redonnes pas, que tu ne participes pas, qu'est-ce qui se passe? L'arbre, ça sèche. Et puis, il peut mourir. Et il meurt comment? C'est par la faute, c'est par les actes des gens, des frères et des sœurs, des personnes qui pensent qu'on est dans un maquis ou dans une boîte de nuit. On n'est pas dans une boîte de nuit. On n'est pas dans un club d'amis. On n'est pas dans une association de quartier. On est dans l'église de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudra pas contre elle. Si vous voulez avoir l'avantage sur les portes de l'enfer, vous devez vivre dans la sanctification. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et vouloir avoir la victoire sur la porte de l'enfer. Ils vont vous broyer. Ils vont vous manger. On va connaître que des débâcles dans le monde. Toi, tu vas faire quoi? Tu vis dans le péché, tu arrives devant un franc-maçon. Oui, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit quoi? Il te voit même comme un cafard. Tu veux chasser les démons? Tu vis dans le péché. Les démons, ils savent même dans quel péché tu es. D'ailleurs, tu sais, dans le monde spirituel, ton péché est écrit sur ton front. C'est écrit comme ça, en gros. Quand le démon te voit, il dit, hey, tu dis, sors, dis encore, sors. Il rit. Tu n'as aucune puissance. Aucune force. Tu as l'apparence, mais tu n'as pas ce qui en fait la force. Amen. Si vous voulez avancer avec Dieu, il faut couper avec les chrétiens qui vivent dans le péché. Ce n'est que lorsque Abraham s'est séparé de Lot que sa vie a recommencé à aller de l'avant. Il y a des gens qui sont là, vous ne pouvez pas savoir le mal qu'ils vous font. De par le simple fait même que vous êtes amis avec eux, que vous priez avec moi. Mais ça, c'est grave. Toi, tu pries avec quelqu'un, tu sais que la personne vit dans l'adultère, et puis vous deux vous mettez ensemble dans un commun accord pour prier. Au moment où elle ouvre sa bouche, la seule chose que Dieu entend au ciel là-bas, c'est adultère. Donc toi-même, son péché d'adultère là, tu partages ça avec elle. Eh oh! Hein? Regarde la démarche. Matthieu 18. Parce que le Seigneur même a donné une démarche. Ça, c'est Jésus lui-même. On dit, mais Jésus, il est venu, il est pour pardonner tout le monde. Non, Jésus nous comprend. C'est lui-même qui a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand les gens veulent pécher, ils connaissent ce verset-là, ça, et ils écrivent ça. On oublie le verset qui dit, soyez saints comme votre Père qui est dans les cieux est saint. On dit, la chair est faible. La chair est faible. Verset 15, Matthieu 18, verset 15. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Ça, c'est la première démarche. Ton frère a péché, tu vas, tu le reprends. Tu dois le reprendre. C'est un devoir. C'est quelque chose que Dieu te demande. Ma soeur, ça là, on fait pas ça. Faut pas faire ça. C'est pas bon. Si la personne reconnaît entre vous deux, ça s'arrête là. Tu n'as pas besoin de faire un scandale ou bien de créer quelque chose. Ça doit rester là. C'est pour ça que Dieu aussi donne à certaines personnes ce qu'on appelle la parole de connaissance. Si tu l'exerces avec sagesse, Dieu va t'en donner encore. Tu vas voir des personnes, Dieu va te dire d'où ils viennent, ce qu'ils sont en train de faire, ce qui truc. Les deux personnes, une personne peut être là, l'autre personne là-bas, mais en même temps, ta parole fait que tu les vois ensemble. Et tu vas te dire, mais tu es avec le frère Tom. Non, moi, non. Mais moi, je vous vois ensemble. Et ma soeur, c'est vrai. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait 4 mois. On se bat pour sortir, mais on n'arrive pas. Je dis, ma soeur, est-ce que tu veux sortir de là? Oui, je veux sortir de là. Prions ensemble. Tu pries pour elle pour qu'elle soit libérée. Mais si tu ne le fais pas, si elle le c'est normalement, ça s'arrête là. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Si la personne ne reconnaît pas, ça va plus loin. La Bible dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Amen. S'il t'écoute, tu as fait quoi? Tu as gagné ton frère. C'est bien, c'est une bonne chose. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. S'il ne t'écoute pas, tu prends une ou deux personnes. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. C'est-à-dire, il ne faut pas aller discuter encore. Non, non, non. Tu prends des témoins pour venir. Comme ça, il ne pourra pas dire qu'on ne m'a pas averti. Ou bien elle est venue, au lieu de me parler de ça, elle m'a demandé de l'argent pour. Elle voulait me faire chanter. Non, 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 non. Tu prends des témoins pour aller lui parler encore. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. C'est-à-dire que si tu. La personne ne veut pas écouter, tu vas maintenant, tu dis, pasteur, voilà, la sœur tant, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça. Et puis maintenant, le pasteur l'appelle et lui dit, il faut sortir de là. Mais pasteur, c'est trop dur, je ne peux pas. D'accord, donc à partir de maintenant, reste là-bas. Il faut rester là-bas. Reste là-bas. Ce n'est pas la peine de venir affecter l'église. En ce qui nous concerne, tu n'appartiens plus à l'Église. Paul dit qu'il a livré des gens à Satan pour la destruction de leur corps, de leur chair, afin qu'éventuellement ils puissent être sauvés. Amen. Ce sont des paroles qui sont dures, mais c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la vérité. 1 Corinthiens. Et même l'immoralité, l'impudicité. Il faut faire très attention à ce péché-là. 1 Corinthiens 6. On lit à partir du on va lire à partir du verset 9. Faisons en même temps la liste de tous ces trucs-là. Et puis, je vais vous montrer quelque chose. On va faire une démonstration et après, on va prier. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, il dit, « Ne savez-vous pas, verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. » Dis efféminés. Ah, c'est grave, on n'a pas dit homosexuel, on dit efféminés. Ça veut dire, le frère marche comme une fille. Enfin, toi, tu ne rentres pas. C'est dans le royaume de Dieu. C'est pas dans le royaume de Dieu là-bas. On dit, on s'en va la louange, on s'en va la louange. Quelle louange? On ne veut pas ça ici, mon frère. On ne veut pas les gens pour venir perturber les gens. C'est dans la Bible. Même les efféminés, femmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Regardez verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. C'est ce qu'on était. Nous tous, on l'a été. Mais si aujourd'hui on peut dire qu'on est sauvé, c'est qu'on ne l'est plus. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Je peux tout faire. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Parce que ces choses-là nous asservissent. Ça nous rend esclaves. Ça fait de nous des esclaves. Ça nous asservit. Ok? Verset 18. Il dit maintenant, en parlant de l'impudicité, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, moi, c'est le péché sexuel. Mais les menteurs, là, on leur fait quoi? Les voleurs, on leur fait quoi? Les tueurs, on leur fait quoi? Mais regarde ce qu'il dit par rapport à l'impudicité. Il dit, fuyez, plus particulièrement, l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. C'est hors de lui. Moi, je n'aime même pas l'expression corps parce que j'ai pris ma version en hébreu. C'est pas hors du corps, mais c'est hors du cœur. L'impudicité n'affecte pas seulement le corps, ça affecte le cœur. Ça affecte l'essence même de la personne. OK? Donc, lui, en fait, celui qui a traduit ça, le frère Louis II en 1700 et quelques, il pouvait pas comprendre. Donc, il a commencé à mettre des choses qui était de l'époque. Mais c'est pas du corps. Il dit, tout péché qu'un homme commette, tu vois, est hors du cœur, est hors de son essence même. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, mais contre son propre cœur. Il pêche contre son esprit. OK? Vous savez pourquoi? Parce que chaque personne avec qui vous avez eu une relation sexuelle a marqué votre esprit. Ça a marqué votre esprit. C'est-à-dire que son image est venue s'imprimer sur votre esprit. Donc, si une seule personne a connu, par exemple, 20 personnes, il y a 20 images de personnes différentes sur son esprit. Regardez. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps, tu vois encore, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est vrai, le corps est le temple, mais pas que le corps. Le Saint-Esprit, quand il vient où? Il vient dans notre cœur. Amen. Ne savez-vous pas que votre cœur est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tu ne sais pas que tu ne t'appartiens pas? Après tout, c'est moi, j'ai fait ce que je veux. C'est mes seins, non? J'ai fait ce que je veux. C'est mon corps, j'ai fait ce que je veux. Non, tu ne t'appartiens plus. Si tu es vraiment converti, tu vas comprendre que tu ne t'appartiens plus. Mais tu appartiens à Dieu. Il dit, car vous avez été racheté, tu étais un esclave. Et puis quelqu'un est venu te racheter. Donc tu as changé de propriété. Avant tu appartenais au diable, maintenant tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas un électron libre. Tu as été sauvé pour servir Dieu. Tu étais sauvé pour faire le royaume de Dieu avancer. Tu dois comprendre ça. Quand tu sers à l'église, tu n'es pas en train de rendre un service à Dieu. Tu te rends un service à toi-même parce qu'il t'a racheté. S'il ne t'avait pas racheté, tu allais être en train de plier sous la pression des esprits et des démons. Et c'est comme ça qu'on assiste maintenant à des chrétiens qui sont possédés. Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas pleinement leur engagement auprès de Dieu. La Bible dit, quand vous chassez un esprit un peu, il va dans les lieux arides. S'il ne trouve pas de repos, il revient vers son ancienne maison. S'il la trouve vide, il entre dans son ancienne demeure et il va chercher sept esprits plus méchants que lui et il les invite à venir entrer encore. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé la maison vide. On ne doit pas trouver la maison vide. On doit trouver la maison remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Là même, il a reconnu qu'il fallait qu'il ajoute, il dit dans votre corps et dans votre esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre être. C'est tout l'être, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui. Petite démo. Ça va parler beaucoup à nos sœurs et à nos frères aussi, mais à tout le monde même. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que, tu sais, quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Dès le moment où vous, et les rapports sexuels s'étaient mis là pour ça, je veux dire, quand vous connaissez votre femme, ou bien quand vous connaissez une femme, vous faites un avec cette femme-là. Okay? C'est pour ça qu'il dit, fuyez donc l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de lui. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu t'unis avec quelqu'un, vous devenez une seule chair. Et quand maintenant, vous devez vous séparer, la personne part avec une partie de vous. OK? Et puis maintenant, vous rencontrez une autre personne, vous devenez une seule chair, et la personne part avec une partie. Celui qui va, on le dit communément, prendre la virginité de la fille. Normalement, ta virginité, c'est pour sceller l'alliance du mariage. Parce que le mariage, c'est une alliance. Et pour toute alliance, le sang doit couler. Quand il y a alliance, il y a sang qui est versé. Donc, Dieu a mis l'hymen pour que le jour du rapport sexuel de la femme avec son homme, avec qui elle va connaître tout le reste de sa vie, que cet hymen-là soit déchiré, de telle sorte que le sang vienne maintenant sceller l'alliance. Et les deux maintenant forment une seule chair. Il n'y a pas de séparation. OK? Okay. Normalement, dans le plan de Dieu, il n'y a pas de séparation. OK? Voilà. Donc, celui qui va prendre la femme pour la première fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va sceller une alliance avec elle. Donc, tu peux aller où tu veux, de manière spirituelle, tu es relié avec la première personne avec qui tu as eu un rapport sexuel. Maintenant, si tu l'as eu parce que tes amis t'ont dit que c'était bien, parce que tu voulais essayer pour voir, parce qu'il était mignon, quel que soit l'endroit où il est parti avec une partie de toi. Maintenant, je vais demander sept hommes qui se lèvent, s'il vous plaît. Sept hommes. Sept hommes. Levez-vous rapidement. Sept hommes. Oui, venez, venez, venez. Venez, venez. Voilà, sept. Un, deux, trois, quatre. Sept hommes. J'ai besoin de... Voilà, venez. Cinq, six, c'est bon. Un autre homme. Ou bien ça fait sept. Non, il manque un. Voilà, mettez-vous en face du peuple. Voilà. Il y a six. J'ai besoin d'un homme encore. Viens. Non, Amazou. Le frère Amazou, voilà. Spirituellement, c'est pas que ton esprit est une pomme, mais je représente ton cœur comme cette pomme-là. OK? Et homme comme femme, hein, pour vous montrer les échanges et les rapports et ce qui se passe. Toi, tu te dis, ah vraiment, voilà l'homme que j'aime. Je sais pas, tu as 16 ans ou 17 ans, tu connais rien à la vie parce que il est mignon ou bien il a des cheveux en forme de dreadlocks ou quoi, je sais pas. Bon, il n'a pas de dreadlocks, mais lui, là, j'aime bien ses lunettes et tout. Ta virginité qui est très importante, c'est-à-dire que la chose n'est pas touchée. Tu dois donner ça à celui avec qui tu vas faire ta vie. Sur un coup de tête comme ça, tu dis, tiens, je suis à toi. Tu prends, mange. Mors d'abord. Mors bien, parce que celui qui prend une femme là, voilà, il mord bien. Voilà, maintenant, comment spirituellement tu es? OK? Parce qu'il est venu, il a pris une partie de toi. Maintenant, tu dis, oh, celui-là, j'aime les costumes qu'il met. Vraiment, il est toujours bien propre et tout ça là. Sans calculer, tu dis, bon, toi aussi, tu as le droit de mordre. Il va prendre une autre partie. Et il va mordre. Après, tu dis, oh, lui, il est clair. Quand je le vois même, il y a quelque chose. Tiens, il faut mordre aussi. Voilà. Après, tu dis, non, moi, j'aime les gars qui sont grands, là. Hein, en forme et tout ça, vraiment. Là, il doit être vraiment fort. Tiens, il faut manger aussi. C'est toi, hein? À chaque fois, il part avec une partie de toi. Et tu dis, oh, lui, il est trop gentil. Vraiment. J'ai trouvé quelqu'un sur qui je peux reposer ma tête. Faut mordre. C'est encore ton mari. Vas-y. Et lui, il mange. Mange encore. Et lui va tout manger parce que, tu vois, il y a quelque chose qui se passe parce qu'à chaque fois il laisse des traces. Mais effectivement, lui il laisse des traces. Si on prend, vous amenez ça chez un généticien, il va trouver l'ADN de toutes ces personnes là dans la pomme. Et lui, je sais pas, tu as un petit problème dedans? Ah, au niveau de la gencive. Donc, il a laissé une trace. Il a laissé un peu de sang, là. Maintenant, tu arrives encore et tu veux donner au frère. Est-ce que tu as mangé? Vas-y, tu peux prendre. Ah, il va manger ailleurs, voilà. Donc, maintenant, voilà maintenant la pomme qui dit. Et maintenant, vous avez quelqu'un qui prie. Seigneur, donne-moi une femme. Oh Seigneur, donne-moi. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Seigneur, donne-moi une femme. Seigneur, donne-moi une femme selon ton cœur. Donne-moi une femme avec qui je vais avancer, avec qui je vais faire des choses, avec qui vraiment. Tant. Et puis maintenant, toi aussi, tu pries. Tu dis, la pomme est là. Donne-moi un mari. Pourtant, tu es déjà mangé. De toutes parts. D'après vous, entre cette pomme-là et puis cette pomme-là, c'est laquelle Dieu veut donner à quelqu'un? Il a son fils qu'il aime. Il a un fils qu'il aime. Il aime. Et il veut lui donner quelque chose. Il veut lui donner le bonheur. Il va donner laquelle des pommes? Celle-là. Maintenant, Dieu tient compte des temps d'ignorance. Il sait que tu ne savais pas quand tu étais dans le monde. Le jour où tu donnes ta vie au Seigneur, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Nous, on ne peut pas condamner quelqu'un qui était dans le monde et qui commettait le péché. La Bible dit, vous n'avez pas à les juger. Vous ne jugez pas les gens du dehors. Mais c'est les gens de l'intérieur. Maintenant, toutes choses sont passées. Toutes choses sont anciennes, sont passées. Tout est devenu nouveau. Donc, au moment où tu donnes ta vie au Seigneur, il y a quelque chose qui se produit. Il y a un changement qui se produit. Dieu, maintenant, te redonne ta forme initiale, c'est-à-dire celle-là. Amen. Et donc, maintenant, tu dois te préserver comme ça. Si tu veux que Dieu puisse te mettre avec son fils qu'il aime, avec quelqu'un avec qui il veut faire de grandes choses. Mais si, tu dis, chic alors, on est reparti pour un tour. C'est dangereux. C'est dangereux. À chaque fois que, je ne parle pas de la même personne, à chaque fois que tu vas avec une nouvelle personne, une autre personne, la personne va prendre une part. Ok. Et ça peut même t'affaiblir spirituellement. Ça peut t'affaiblir. Et quand tu es affaibli, qu'est-ce que tu peux faire? Tes ennemis vont te vaincre. Les ennemis, c'est quoi? C'est toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés, tous les problèmes auxquels on peut être confronté. Tu comprends? Et pour avoir la force contre ces choses-là, il faut que spirituellement parlant, tu sois fort. Et pour être fort spirituellement, il faut t'éloigner du péché. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez aller vous asseoir. Tu veux marcher avec Dieu? Amen. Tu veux marcher avec Dieu? Vis dans la sanctification. Amen. Dieu a dit à Josué, écoute, moi, je ne serai pas avec vous parce qu'il y a le péché au milieu de vous. Trouve-moi le pécheur et expulse-le du groupe et je vais recommencer à marcher avec vous. Ça ne sert à rien de dire oui, mon Dieu, donne-nous la victoire. Il faut nous positionner pour marcher dans la victoire. Amen. Et ça implique qu'on mette notre vie en règle. Maintenant, je ne dis pas que personne n'a jamais fait d'erreur. Ça arrive. Mais le Seigneur a dit, repentez-vous. Si vous confessez vos péchés, si vous vous repentez, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Mais il faut comprendre que vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'assemblée, vis-à-vis du groupe. Et que, par exemple, la dernière fois, on parlait du groupe de louanges. L'apôtre parlait du groupe de louanges. Tu ne peux pas aller vivre dans l'adultère et puis venir te tenir là pour conduire les gens dans la présence de Dieu. Non, tu es en train d'alourdir la louange de l'Église. Non, par respect même pour l'Église. Pardon, il faut t'asseoir. Tu t'assois, c'est simple, tu t'assois. Bon, tu dis vraiment, il y a un responsable du groupe. Vraiment responsable, ça ne va pas. Actuellement, je suis dans une relation qui n'est pas bien. Et l'Église peut t'aider à sortir de cette relation. On peut t'aider. La communion, là. Si tu n'es pas en règle vis-à-vis de la parole de Dieu, ce n'est pas la peine de prendre ça pour manger. OK? Parce que c'est le symbole même de notre appartenance à une famille. On partage un repas ensemble. On partage le sang de l'agneau. C'est ça le lien. Maintenant, est-ce que ça veut dire que il faut expulser les gens qui sont dans des situations difficiles et tout? Non, mais il faut te dire une chose. Les problèmes ne peuvent se résoudre que lorsque, un, on a pu les identifier. Donc, il faut au moins amener la personne à comprendre qu'il a un problème. Parce que tant qu'il ne sait pas que c'est un problème, il ne va rien faire pour sortir du problème. Il doit identifier le problème. Le problème étant identifié maintenant, il doit maintenant chercher les solutions et appliquer les solutions. Des fois, ça implique de se faire violence. Des fois, ça implique de prendre des décisions radicales. Des fois, ça implique de couper certaines relations. Des fois, ça implique de faire des sacrifices. Il faut faire tout ce qui est nécessaire. Mais il faut sortir de là. Parce que ça ne te permettra pas de pouvoir progresser, de pouvoir avancer. Amen. Amen. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu te donne encore la, Dieu te fait encore la grâce de pouvoir te repentir.